Chant 14e.
Par l'amour du pays, l'âme émue et oppressée, vite je rassemblai la feuille et dispersée, pour la rendre au buisson dont la voix s'altérait. De là nous arrivions à la limite extrême, où le second giron aboutit au troisième. La justice de Dieu terrible s'y montrait. Nous avions devant nous, pour essayer de peindre, cette enceinte nouvelle où nous venions d'atteindre, une lande effrayante, un sol aride et nu. La forêt douloureuse enserre cette lande, comme elle-même avait le fossé pour guirlande. Nous fîmes halte au bord de ce sol inconnu. C'était un champ immense et tout couvert de sable, sable brûlant, épais et tout à fait semblable à celui qui jadis fut par Caton foulé. Ô vengeance de Dieu, comme tu dois paraître épouvantable à qui me lit et va connaître le terrible spectacle à mes yeux révélés. J'aperçus devant moi des troupeaux d'âmes nues qui misérablement sanglotaient éperdus. Elles ne semblaient pas souffrir même tourment. Les unes sur le dos gisant et renversées, d'autres s'accroupissant et comme ramassées, et d'autres qui marchaient continuellement. Celles-ci qui tournaient étaient les plus nombreuses, mais celles qui gisaient semblaient les plus malheureuses, et leur douleur avait des accents plus profonds. Sur tout le champ de sable où se tordaient ces âmes, lentement par flocons tombaient de larges flammes, comme par un temps doux la neige sur les monts. Ainsi sur ces soldats autrefois Alexandre, dans les plus chauds déserts de l'Inde, vit descendre des flammes qui brûlaient les sables en tombant. Et faisant aussitôt piétiner son armée, sur le sol menacé de la pluie enflammée, prudent il étouffait la flamme en l'isolant. Ainsi le feu maudit tombait dans la carrière. Comme on voit s'allumer l'amorce sur la pierre, le sable prenait feu, doublant les cris des morts. Leurs misérables mains s'épuisaient à la tâche, allant de ci, de là, secouant sans relâche chaque tison nouveau qui leur brûlait le corps. « Ô maître esprit puissant et fécond en miracle, dis-je, et qui fait céder les plus rudes obstacles, hors pourtant les démons qui t'ont barré le seuil, quelle est cette grande ombre, la flamme insensible ? Ce damné qui gît là, dédaigneux et terrible, sans que la pluie ardente ait brisé son orgueil. Le pécheur à ces mots, qu'il entendit peut-être, devançant aussitôt la réponse du maître, cria « Tel je vécus, tel je suis resté mort !» Quand même Jupiter lasserait le ministre, et qui lui forge sa foudre et dans un jour sinistre, arma pour me frapper son furieux transport. Quand il fatiguerait tour à tour main et forge, tous les marteaux qu'Etna renferme dans ses gorges, en criant « Bon Vulcain, au secours !» Comme il fit au combat de Flégra, fureur vaine, quand il épuiserait ses flèches et sa haine, la joie et sa vengeance aura manqué toujours. Mon guide alors d'un ton plus haut, d'une voix forte, il n'avait pas encore parlé de telle sorte. Canapé, orgueilleux qui ne veut pas fléchir, connais dans ton orgueil la plus grande torture. Il n'est pas dans l'enfer de souffrance si dure que celle que la rage à ton cœur fait souffrir. Puis se tournant vers moi d'une voix adoucie. C'est un des chefs tués à Thèbes en Boétie. Il méprisait Dieu, mort, il garde ses mépris. Au lieu de supplier, insolent, il blasphème. Mais je le lui disais, cette insolence même de son cœur indomptable est le plus digne prix. Allons, viens après moi, sur ma trace suivie, prends garde de fouler cette arène avie, et près de la forêt marche toujours serrée. En silence du bois, nous suivions la lisière, lorsque j'en vis jaillir une étroite rivière. Son flot rouge me fit frémir tout atterré. Semblable à ce ruisseau sorti du Bulicame, où les filles du lieu vont puiser un dictame, sur l'arène on voyait le fleuve s'épancher. Le fond, les deux côtés de l'étrange rivière, les bords dans leur largeur étaient construits en pierre. Je vis que c'était là que je devais marcher. De tout ce que je t'ai montré dans notre route, depuis que nous avons franchi la triste voûte, dont le seuil à personne, hélas, n'est interdit, tes yeux n'avaient rien vu. Me dit alors mon guide, rien d'aussi merveilleux que ce courant rapide. Il passe, et sur ses flots la flamme s'amortit. Ainsi parla le maître, et moi j'ouvris l'oreille, avide et le priai de dire la merveille, qui tenait en arrêt ma curiosité. Au milieu de la mer, dit alors le poète, est un pays détruit que l'on nomme la Crète. Il vit le monde enfant, dans sa simplicité. Là règne un mont jadis couvert d'eau, de feuillage, Lida, c'est son doux nom, souriait aux vieux âges. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un désert, qu'un débris. Réa l'avait choisi pour le berceau fidèle de l'enfant que cachait sa crainte maternelle et dont elle étouffait les pleurs avec ses cris. Dans les flancs de ce mont, comme un anachorète, se tient debout, le dos tourné vers Damiette, un vieillard, l'œil fixé sur Rome, son miroir. En or fin est son col et sa tête divine. D'argent pur son pétris, ses bras et sa poitrine. Son tronc jusqu'à la fourche est de cuivre plus noir. Le reste de son corps de fer indélébile, excepté son pied droit, lequel est fait d'argile. Et c'est sur celui-là que pèse tout son corps. Argent, airain et fer ont tous quelques brisures, et distillent des pleurs qui, par chaque fissure, filtrent dans la montagne et s'épanchent dehors. Ils forment en coulant, dans ces vallons sans bornes, le Phlégéton, le Styx, l'Achéron, fleuve morne. Par ce conduit étroit, ils vont toujours plus bas. Et coulant jusqu'au fond de l'enceinte profonde, engendre le Cocyte. Or tu verras cette onde. Ainsi pour le moment, je ne t'en parle pas. Mais si ce courant d'eau que je vois là, lui dis-je, vient de notre univers, dis-moi par quel prodige il n'apparaît qu'ici dans ce gouffre profond. Tu vois, répondit-il, que ronde est cette voûte, et quoique nous soyons avancés dans la route, en descendant toujours à gauche vers le fond, nous n'avons pas du cercle achevé l'étendue. Si donc chose nouvelle apparaît à ta vue, garde en le regardant, ton œil accoutumé. « Où donc sont le Phlégéton et le Léthé, mon maître ? » dis-je encore. « De l'un, tu ne fais rien connaître, et de l'autre, tu dis qu'il est de pleurs formés. »« Te répondre, dit-il, est toujours chose douce. Mais le bouillonnement pourtant de cette eau rousse t'aurait bien dû pour moi répondre cette fois. Tu verras le Léthé, mais hors de ses abîmes, au lieu où les esprits se lavent de leurs crimes, quand le pardon de Dieu leur en remet le poids. » « Or, laissons là ce bois, dit ensuite le sage, suis-moi toujours. Ces bords nous offrent un passage, ils ne sont pas brûlés comme ce pauvre champ. Toute flamme s'éteint et meurt en les touchant.